Bien, bonjour mesdames, messieurs, je vous remercie de votre présence aujourd'hui. C'est la deuxième conférence. Je vais commencer par résumer la première, très brièvement, je suppose que ce ne sera pas inutile, puisque nous nous posons la question du panthéon mazdéen, nous sommes en premier lieu et presque essentiellement concernés par le livre de l'Avesta que l'on appelle les Yashts. Le mot Yasht n'est pas un mot avestique, c'est un mot moyen perse qui signifie sacrifice. Bon, il rend l'avestique Yasna, le sacrifice. Et les Yashts, pour les définir d'une manière qui n'est pas strictement linguistique, signifie hymne sacrificiel. Et ce sont les hymnes, ce livre est celui des hymnes sacrificiels consacrés aux divinités autres que Ahura Mazda. C'est donc le grand livre polythéiste de l'Avesta et c'est celle qui nous permet une réflexion plus approfondie sur le Panthéon. Je vous rappellerai les différentes étapes de la conception que l'érudition occidentale s'est faite de ce livre des Yashts en le confrontant à la fin du XIXe siècle. L'ancienneté du livre apparaît aux philologues de l'Avesta, qui sont à ce moment-là en parfaite possession de leurs outils linguistiques, avec la découverte de l'existence des lois phonétiques. Leur opinion se forme donc avec des outils linguistiques sophistiqués et dans le cadre de la datation haute. Donc, cela les amène à opposer les gathas, qui sont le texte le plus ancien et qui sont l'expression du monothéisme prêché par Zarathoustra, au livre polythéiste des Yashts. Ils comprennent le polythéisme des Yashts comme une réaction syncrétique. Il s'agit d'une sorte de syncrétisme entre le monothéisme de la prédication et le vieux polythéisme indo-iranien. Il témoignerait donc ainsi d'un retour du passé. Un peu plus tard, à la fin du premier tiers du XXe siècle, mais dans le cadre dès lors de la datation moyenne, la conception change avec les opinions de Meillet et de Christensen, que je vous ai exposées la dernière fois. Les gathas sont incontestablement le plus ancien texte avestique. Mais les Yashts témoignent d'un système religieux différent. Il ne s'agit pas d'une religion syncrétique, c'est le représentant autonome, comme dira Meillet, d'une autre religion comparable au vieux polythéisme védique indien. Et les quelques notations zoroastriennes qui figurent malgré tout dans les Yashts sont interprétées comme des additions. Alors, ceci couvre une période très intéressante dans le cadre de la datation haute et dans la conception que s'en font les spécialistes de cette époque. Les gathas dateraient du 7e ou du 6e siècle entre les additions zoroastriennes au Yasht du 4e siècle. Dès lors, les parties autonomes des Yasht, les parties religieuses, autonomes des Yashts qui sont métriques, figuraient entre ces deux dates, entre le 6e et le 4e siècle. Et comme vous le voyez, c'est une période extrêmement typée puisque c'est la durée approximative de l'Empire achéménide, l'Empire mède et achéménide, fondé au 6e siècle et qui s'effondre au 4e siècle. Bon, troisième opinion, c'est l'article, le fameux article de la revue d'Ishprache de 94 de Protsoktor Chervu, dans le cadre cette fois d'une datation ultra haute, puisque les hymnes des Yashts sont situés en l'an 900 avant notre ère, et dans ce cadre-là, témoignerait d'une vieille hymnologie indo-européenne, c'est une conception dont je vous ai fait la critique la dernière fois. Et Chervu, contre la conception précédente, plaide très clairement pour l'unité du texte qu'il considère composé en fonction d'une série de thèmes obligés. Alors, voilà, Où en sommes-nous aujourd'hui ? Quelle est ma propre conception des Yazd ? J'ai eu l'occasion, avec certains d'entre vous peut-être déjà, d'aborder cette question à partir de l'année 1997. Ce cycle de cours a duré 3 ans. Je partage avec Chervieux et avec beaucoup de conviction l'hypothèse de la datation haute, mais elle n'est pas ultra haute comme celle de Chervieux. Je pourrais considérer que les Yazd sont peut-être des textes du 8e siècle plutôt que du 10e, mais ce n'est là une question de... Donc ce sont des textes qui précèdent l'époque de l'Empire achéménide, ce sont donc des textes issus, du point de vue iranien, de la préhistoire, puisqu'à ce moment-là, nous n'avons aucun témoignage sur aucun fait d'histoire iranienne. Bon, alors, les textes sont-ils homogènes ou composites ? Je crois que les textes ne sont pas homogènes, contrairement à Chervieux. Ce sont des textes assemblés à date ancienne. Mais, c'est la nuance, en fonction d'une intention déterminée. Donc, ce ne sont pas, comme l'a écrit Meyer, reportez-vous à la citation, des fragments très menus et assemblés sans ordre. Non, ils ont un ordre. Il y a une intention littéraire et conceptuelle derrière le montage. Ensuite, ces fragments ne peuvent pas se distribuer en fonction d'une opposition zoroastrien et non-zoroastrien. Il est impossible, je l'ai déjà dit, de dézoroastriser un texte avestique. Les Yazd aussi, c'est une chose impossible. C'est inextricable. Chaque cas pose un problème que l'on ne peut pas résoudre, ce qui est le signe le plus sûr qu'il s'agit là d'un faux problème. Il s'agit donc d'autre chose. Alors, peut-on avancer une date pour cet assemblage ? Je ne dis pas la rédaction des parties constitutives. Ça, c'est l'an 900 selon Chervieux, 800 pour moi. Non, la date de l'assemblage des diverses strates textuelles. Je n'ai pas de date précise à avancer, mais une réflexion tout de même de chronologie relative. Cela a été fait à une époque, on peut le constater, où l'on peut encore adapter la grammaire, voire composer des textes d'extension limitée. C'est-à-dire que l'assemblage nécessite certaines adaptations grammaticales dans le texte. Et il est clair, on ne se donne pas toujours la peine de les faire. Parfois, c'est défaillant. Mais parfois, si. Donc, c'est possible. La connaissance de la grammaire est encore suffisante pour créer, enfin, pour assembler le puzzle. Deuxième réflexion. Les morceaux qui ont été assemblés, les parties constitutives des Yazd, ont ceci de particulier qu'ils correspondent à des genres rhétoriques dissemblables. Souvenez-vous, nous avons toujours travaillé comme cela. Il y a le Yazd proprement dit, le Yazd, le sacrifice, le verbe sacrifier, le verbe yaz. Eh bien, un Yazd, pour le définir très simplement et presque de manière théologique, de manière tautologique, excusez-moi, consiste à dire yazamaïdé, assorti du nom de la divinité, ce qui signifie nous offrons le sacrifice à telle divinité. C'est cela, un sacrifice, c'est dire nous sacrifions. Ça paraît très simple, mais c'est cette sorte de charnière, cette sorte de topic du verbe qui définit le genre. Il y a dans les Yazd des parties que nous pouvons dire Yazd proprement dit, la partie en yazamaïdé. Il y a autre chose aussi. Il y a un autre genre fréquent que nous avons défini comme le frashna. Le frashna, c'est-à-dire, pour employer un terme un peu policier, mais correct, l'interrogatoire. Le frashna se présente comme un dialogue entre le grand dieu Ahura Mazda et Zarathoustra. Zarathoustra pose une question et Ahura Mazda répond à la question. Le verbe constitutif, cette fois on parle à la troisième personne, c'est Pursat. Il demanda, Zarathoustra demanda, Pursat. Certaines parties des Yazd peuvent être définies comme des frashna. Oh, nous avons encore vu autre chose. Nous avons vu des data. On traduit généralement ce mot par loi. J'essaye de l'éviter pour une raison simple, c'est que je crains que lorsqu'on traduit par loi, on comprenne que nous avons là des fragments d'une littérature juridique. Ce n'est pas le cas. Alors, je préfère des prescriptions. Bien sûr, ça consiste à donner des ordres. Hein. Ce sont des ordres, ce sont des prescriptions. Je parle de textes prescriptifs. Ici, ce qui fonde le genre data, le genre prescription, c'est l'usage du verbe. La prescription, l'ordre est donné à l'optatif. L'optatif n'est pas seulement souhait, il est parfois beaucoup plus autoritaire que ça. Ici, c'est un optatif autoritaire, voilà, vous devez faire cela. Il y a d'autres genres encore, je ne vais pas les passer tous en revue, ce n'est pas le problème, mais c'est pour montrer que c'est une autre approche des Yacht. Alors, en appliquant cette méthode d'approche par les gens rhétorico-rituels, eh bien, il apparaît qu'il n'y a pas de Yacht qui soit complètement Yacht. Il y a une partie Yacht, oui, qui est plus ou moins grande. Il n'y a qu'un seul Yacht qui répond du début à la fin au type Yacht, c'est le Yacht du dieu Srausha, et il ne se trouve pas dans le corpus des Yacht. Il est intégré au Yasna. Ce qui explique peut-être les choses. Hein, c'est-à-dire que l'introduction dans l'Yasna peut-être eu lieu avant que les montages dont nous venons de parler aient été opérés. C'est une hypothèse. En tout cas, le Yasna 57, qui est le Yacht de Srausha, il est explicitement défini comme tel, est d'un bout à l'autre un texte en Yazamaïdé. Alors, certains Yacht sont effectivement composés de parties importantes en Yazamaïdé, c'est le cas du Yacht 10 à Mitra, et parfois pas du tout. Le très long Yacht 5 à Anahita, par exemple, se présente comme un data. Yazaïcha, tu dois sacrifier Anahita, dit Ahura Mazda à Zarathustra. Or, Yazaïcha est un optatif autoritaire, il doit sacrifier. Donc c'est une autre clausule, c'est une autre formule rhétorique qui introduit, qui façonne le texte. Alors, vous voyez ce que la différence qui nous permet de voir qu'il y a dans chaque texte, dans chacun de ces hymnes sacrificiels, un assemblage de morceaux de type rhétorico-rituel différent. J'ai substitué, au fond, pour arriver à cette conclusion, l'étude des thèmes, qui a été la méthode de Chervieux, à celle des genres rhétoriques. L'approche est différente, c'est en fonction du type littéraire que nous pouvons arriver à cette conclusion. Alors, ce que je voudrais faire remarquer, c'est un peu un corollaire, mais c'est aussi une nuance que je voudrais apporter à cette conclusion, c'est que l'assemblage des morceaux n'est pas nécessairement une entreprise unitaire et synchronique. Il a pu correspondre à des préoccupations successives, mais toujours, en tout cas, de manière voulue et consciente. Ce ne sont pas, encore une fois, les morceaux assemblés sans ordre de Meillet. Et on trouve à la limite chronologique, je vous ferai remarquer, parce que le phénomène est intéressant, ce que l'on pourrait appeler la récupération antiquaire des textes, qui vise à sauver certains textes. Dans les leçons de la fin du XXe siècle, nous avions relevé l'exemple du Yacht 8, à l'étoile Tishtria, qui est responsable de la chute de la pluie. Or, le Yacht de Tishtria raconte en réalité, il y a quatre parties qui racontent strictement le même processus, racontent la même chose, avec des nuances, bien sûr, dans les mots, n'est-ce pas ? Mais le processus de la pluie est raconté quatre fois. Trois fois sous la forme d'un Yacht, formule en Yazamaïdé, une fois sous la forme d'un Frashna. Réponse d'Ahura Mazda à des questions de Zarathustra. Mais c'est la même histoire, quatre fois. Souvenez-vous, il y a deux ans, en expliquant le Yacht 13, nous avions constaté que les trois premiers chapitres du Yacht 13, eux aussi, racontaient la même histoire, exactement. Il n'y avait aucune nouveauté conceptuelle dans ces passages. C'était le processus qui a mené les Fravashi à devenir les soutiens, les cariatides, du monde matériel immobile. C'est donc une cosmogonie qui raconte l'origine du monde non pas mental mais matériel et où les Fravashi interviennent. Or, le premier chapitre raconte cette histoire sous la forme d'une description. C'est ouvertement ce que dit c'est encore un autre genre, ça, hein, où Arwa Mazda le dit clairement, disant « Fram Raoumi, je vais décrire comment ça s'est passé. » Et il raconte. Hein. Le deuxième chapitre le raconte sous la forme d'un « data ». Il faut faire ceci, il faut faire ceci, parce que les Fravachis ont fait cela. Et le troisième, enfin, qui est plus court, c'est toujours l'ordre décroissant qui est usuel dans l'Avesta pour ces chapitres, raconte à nouveau la même histoire, mais cette fois-ci sous la forme véritable d'un yasht. Nous avons trois fois, conceptuellement, rien ne se passe de nouveau dans ces trois parties, mais le genre rhétorico-rituel a changé. Alors, il faut par contre se méfier d'autre chose. C'est que des lourdes disparités thématiques dans le texte ne font pas argument. Je prendrai l'exemple du yasht 19. Le yasht 19 est relativement long, il y a plus de 90 strophes. Il n'y en a pas 100, 92 peut-être, ce n'est pas tellement important. Mais les 10 premières strophes nous parlent des montagnes. C'est un catalogue, ça aussi c'est un genre rhétorico-rituel. Le catalogue des montagnes. Catalogue des montagnes de la terre d'Iran. Non, le nom des montagnes se succède. Et puis, à partir de la 11e strophe, autre chose, c'est un hymne consacré à cette sorte de force un peu énigmatique dans son rôle qu'est le Kwarna. Nous y viendrons lors du cours. Le Kwarna, donc, une sorte de force lumineuse et qui, par son nom, assure la prospérité des pays iraniens. Entre les montagnes et le Kwarna, il n'y a en principe rien de commun. Aussi, jusqu'à l'analyse de Pirard en 92, on a considéré que nous avions là l'assemblage hétéroclite, tardif probablement, de deux textes très différents. Ben non, ça n'est pas tardif. Comme Humbard l'a très bien vu quelques années plus tard, dans sa propre interprétation du Yasht 19-98, il a montré qu'en réalité, le Sirosa, qui est la liste des noms du jour du mois, associait pour la même journée les montagnes au Kwarna. On peut se méfier du Sirosa avestique. C'est une succession des divinités qui patronnent les jours du mois. Et il est essentiellement composé de citations. Alors, dans la mesure où l'on utilise la citation, ça peut être parce qu'on ne sait plus rédiger dans une langue particulière. Donc le Sirosa est un texte qu'il est très difficile de situer en chronologie relative. Mais il y a mieux. C'est un passage du Yasna. Un passage du Yasna fait allusion, c'est le Yasna 1.14, fait allusion à un texte qui est consacré à une montagne particulière qui semble avoir une importance particulière dans le contexte religieux mazdéen, c'est le mont Ushidarna. Ushidarna, ça viendra plus tard, je ne vais pas l'écrire au tableau, vous le verrez sur une liste tantôt ou la fois prochaine. La montagne Ushidarna, la montagne aux fissures rouges, et toutes les montagnes avec lui. Il en est le prototype de toutes les autres. Et puis, le Kwarna. Et même avec le Kwarna, les différents types de Kwarna, cette phrase du Yasna avestique 1.14 peut réellement être considérée comme la table des matières du Yasht 19. Donc l'association apparemment incohérente des montagnes et du Kwarna est ancienne. Elle est d'époque avestique, elle est attestée par le Yasna 1. Ce qui veut dire que le caractère apparemment hétéroclite des thèmes retenus n'a strictement aucune valeur critique pour établir le caractère homogène ou fabriqué des textes. Alors, la métrique, allez-vous me dire, cette fameuse métrique, cette fameuse série, cette fameuse succession d'octosyllabes imparfaits avec des ruptures de l'isométrie, qu'en est-il? Eh bien, ça, nous l'avons étudié ensemble il y a moins de temps, c'était, je pense, en 2005 ou 2006. Ce qui dérègle la métrique, ce n'est pas l'introduction de notations plus récentes, c'est la mise en genre. C'est la mise en genre. Par exemple, les verbes tout à fait caractéristiques qui caractérisent chaque genre, Yazamaïdé, nous sacrifions, ou Pursat, il demanda. d'autres notations encore. Eh bien, ces verbes détruisent le compte syllabique correct. Ces verbes sont excédentaires. Ils introduisent des syllabes qui sont incompatibles avec la suite, avec la suite des octosyllabes. Alors que peut-on, donc c'est la mise en genre qui a déréglé la métrique. Mais il nous faut pour cela admettre qu'il y avait des textes métriques cohérents que nous ne possédons plus et que la métrique a très tôt cessé de disparaître comme exigence. On a préféré le genre à la métrique, si je puis le dire comme cela, c'est-à-dire que la volonté de créer un genre Yasht, un genre Freshna, d'autres types de genres, s'est faite au prix de la destruction de la régularité métrique. Elle n'a plus passé pour une exigence fondamentale. On ne peut voir les choses que comme cela. Alors, je voudrais tout de même, mais c'est prématuré, mais enfin, on dit que dans cette maison, c'est la recherche en train de se faire. Je ne sais pas encore très bien ce qu'il faut en penser, mais notre collègue Éric Pérard présente une conjecture plus sophistiquée. Pour Éric Pérard, ce n'est pas, par exemple, l'introduction de Yazamaïdé dans un texte particulier qui va dérégler la métrique. C'est le genre qui est considéré comme incompatible avec la métrique. Le genre Yasht exigerait que l'on ne respecte pas la métrique. Vous voyez, l'hypothèse paraît très sophistiquée, mais elle n'est pas aussi étrange qu'elle n'en a l'air. Elle n'est pas aussi étrange parce que nous vivons, nous l'avons vu l'an dernier, dans une tradition qui est dominée par le commentaire des textes du passé. Or, il y a un précédent grandiose. À côté des gathas parfaitement métriques, nous avons le Yasna Haptankhaiti qui est en prose. Or, le Yasna Haptankhaiti est l'exemple vénérable d'un texte en Yazamaïdé. Là, il s'appelle véritablement d'un nom avestique, Yasna. Yasna, sacrifice. Il donne l'exemple de ce qu'est un texte en Yazamaïdé. Et ce texte en Yazamaïdé est un texte en prose. Il nous faut faire très attention, parce qu'il y a des traces qui pourraient laisser supposer qu'il y a eu des discussions sur le fait de savoir si, dans telle circonstance rituelle particulière, l'on devait utiliser le vers ou la prose. Ça nous paraît une discussion un peu... superflu, mais c'est comme cela, n'est-ce pas? C'est une question de sensibilité littéraire, de sensibilité rituelle, d'adéquation de la parole au rôle qu'on lui accorde dans le rite. Et l'idée de procéder à un sacrifice, de prononcer un texte en Yazamaïdé, aurait été ressentie comme incompatible avec une réalité métrique du texte. Bon. Nous laisserons le temps faire son œuvre et les discussions faire émerger une opinion à ce sujet. Mais je voulais vous la signaler. Alors, néanmoins, nous possédons avec cette remarque un petit élément de chronologie relative à nouveau. C'est qu'entre les textes vieil avestiques et leur métrique très compliquée, très sophistiquée, et la mise en genre dérégulatrice de la métrique que nous observons dans les Yasht et dans l'Avesta récent en général, il a dû exister une littérature en une langue qui est l'Avestique récent, un hymnaire, pour le dire ainsi, dont nous avons recueilli des clausules, mais dont nous ignorons exactement quelle était l'organisation primitive, quelle forme avait-il. Lorsqu'une clausule à l'accusatif singulier est reprise comme objet d'un Yazamaïdé, et si Yazamaïdé détruit la métrique, comment se présentait cette clausule dans le texte qui a été utilisé? Quelle forme avait-il? Ça, nous ne le savons pas. D'une certaine manière, mais à l'intérieur même de l'incertitude syntaxique, n'est-ce pas? Nous nous trouvons dans une situation fort analogue à celle des hymnes du Rig Veda. Les hymnes du Rig Veda sont des hymnes qui ont été réutilisés dans le grand sacrifice brahmanique, mais dont nous ignorons exactement à quoi ils servaient à l'origine, non seulement à quoi ils servaient, mais sous quelle forme il pouvait être récité, dans quelles conditions exactement pouvait-il être récité. Eh bien là, nous avons un fantôme encore un peu plus vague d'un hymnaire dont nous ignorons l'organisation syntaxique même et qui a servi très certainement à composer, en étant associé à d'autres textes différents, n'est-ce pas, le texte des Yashts que nous possédons. Si vous voulez, pour le résumer de manière extrêmement linéaire, entre l'Avesta ancien, donc les Gatha et le Yasnahaptankhaiti, l'Avesta ancien et nos Yashts, il y a, avec l'astérisque de restitution, comme en grammaire comparée, ce que j'appellerais la littérature du stock octosyllabique, qui devrait être réutilisée dans les Yashts si mon hypothèse est correcte. Alors, je voudrais faire remarquer une dernière fois dans les acquisitions de nos enquêtes précédentes, nous avons mené ensemble ici, qu'à plusieurs reprises, j'ai voulu relativiser la catégorie extrêmement vivante depuis la poésie héroïque de Hauk, la catégorie de matière épique. L'épopée, selon les conceptions romantiques de la littérature, présente trois caractéristiques, comme je vous le disais la dernière fois. D'abord, c'est une littérature guerrière. J'ai fait remarquer à plusieurs reprises, mais de manière non systématique, mais chaque fois qu'il fallait le faire, que très souvent, les combats, les violences que l'on peut lire dans la littérature des Yashts sont d'ordre métaphorique, sont de l'ordre de l'image, de la mythopoésie, pourrait-on dire, comme lorsque les textes deviennent des armes aux mains des dieux et leur servent à tuer les démons. Ensuite, c'est que l'importance statistique, purement, de des passages à coloration martiale n'est pas très fréquente. Cela survient beaucoup moins souvent qu'on a pu le dire. L'intervention du merveilleux, mon Dieu, elle va de soi. Nous sommes tout de même devant des textes rituels, des textes qui concernent en premier chef l'activité des dieux. Alors, le merveilleux est une conséquence qui me paraît naturelle de cette situation. Quant à la formation de l'identité nationale, oui, mais de manière partielle, et surtout ceci. Avec cette succession de héros, il y a un catalogue des héros, comme il y a des catalogues de montagnes, dans les catalogues des héros ou des sacrifiants qui composent 4 Yashts sur les 21, eh bien, cette succession constitue non pas un assemblage de mythes différents, mais ce que Dumézil appelait une histoire de remplacement. On nous raconte l'histoire du monde à travers ces mythes séparés. C'est l'histoire du monde. Alors, dans cette histoire du monde, il y a bien entendu un moment particulier, précis, qui est l'apparition de l'identité nationale iranienne. Mais ce n'est qu'un moment de l'histoire. Bien des choses se produisent avant ça, bien des choses vont se produire après. Si bien que le sujet de cette histoire de remplacement n'est certainement pas la formation de l'identité nationale. C'est une continuité absolue et radicale entre la cosmogonie au début et la fin des temps pour finir. Donc, la matière épique, je vous ai invité plusieurs fois à relativiser le concept que je soupçonne d'ailleurs dans notre propre idéologie d'être une pure projection homérique. C'est l'importance que peut avoir eu dans notre culture, dans notre éducation, dans notre scolarité, la lecture des textes homériques qui a peut-être incité à créer un genre littéraire épique. Alors, cette représentation nous invite, n'est-ce pas, nous pouvons dire que le vieil hymnaire octosyllabique dont nous suspectons l'existence nous échappe entièrement. Du texte qu'il est devenu et qui nous est parvenu, je crois qu'il faut peut-être répéter surtout ce que mutatis mutandis, bien sûr, mais on peut le répéter exactement, ce que l'indianiste Fritz Stahl disait du Rig Veda. C'est tout ce que vous voulez, sauf un livre. C'est tout ce que vous voulez, ce qui d'ailleurs détruit, vous le savez, la notion de livre sacré. C'est tout sauf un livre. Le livre, eh bien, sa première version, c'est celle d'Anquetil du Perron. C'est Anquetil du Perron qui a fait un livre au XVIIIe siècle du matériel linguistique qui était épars dans les manuscrits qu'il a rapportés d'Inde. L'Avesta n'est pas un livre. L'Avesta n'est pas un livre, c'est une liturgie et rien d'autre. C'est un récitatif liturgique, je vais préciser. Alors, il ne faut pas voir les choses à l'Amérique, ce ne sont pas des aèdes qui vont chanter les textes de cours en cours, ce ne sont pas les troubadours qui vont de château en château, non. Ce n'est pas ce qui la littérature de l'Avesta, sa matière littéraire, ce n'est pas un récit édifiant, ce ne sont pas des contes à divertir le soir autour du feu, non, c'est seulement un récitatif liturgique. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, justement, cette répartition de ces liturgies nous invite à considérer l'Avesta d'une autre manière que celle qui exprime sa division en livres. Je disais, j'ai présenté les choses parce que ça donne une image tout de même de ce qu'est l'Avesta. Je vous ai donné la dernière fois l'image traditionnelle, c'est d'un agglomérat de 5 livres réductibles à 3, souvenez-vous-en. Alors, il faut avoir plutôt une vision binaire de l'Avesta. Il y a une longue liturgie unitaire qui est composée en extension variable du livre Yasna, avec l'Avesta ancien, Gata Yasna Abtankaiti en son cœur, avec insertion éventuelle du Visprat et insertion éventuelle du Videvdat. Ça, c'est une liturgie longue et unitaire. Ensuite, nous avons une anthologie de liturgies plus brèves. Ce sont les Yasht, pour le culte d'une certaine quantité de dieux, les Yasht, et puis le Korda Avesta, qui d'ailleurs ne paraît que composé d'extraits de ces yachts, à quelques exceptions près. Donc voilà, désormais nous aurons une vision binaire de l'Avesta, mais que ce soit le livre qui a pour fondement l'Yasna ou celui qui a pour fondement les yachts, ce sont deux récitatifs liturgiques. Il y a autre chose. Bien entendu, les dieux des yachts, ils apparaissent aussi dans l'Yasna. Nous trouvons les dieux dans les deux liturgies, bien sûr. Ils ne sont pas dans les gathas, bien sûr. Le problème du monothéisme, c'est les gathas qui le posent. Mais dans le Yasna, rédigé en avestique récent, les dieux des Yasht sont eux aussi mentionnés. Or, la manière dont ils sont évoqués, et nous allons le voir, cela vaudra aussi pour le livre des Yasht, mais la manière dont ils sont évoqués dans le Yasna, c'est essentiellement en fonction de leur rôle en tant que patron des divisions du temps. Ils patronnent les divisions du temps, ou, c'est un peu la même chose, mais rhétoriquement aussi ça prend une autre allure, ils donnent leur nom à ces divisions du temps. Et dans cette fonction-là, ils portent un titre particulier qui est le titre de Ratu. Ratu. Je crois que ils sont, comment dire, principe l'Indien Urtu, désigne une période récurrente du temps. J'étais très tenté récemment de traduire ce mot Ratu lorsqu'il se rapporte ainsi aux divisions du temps par le nom de mesure, parce qu'ils sont une mesure du temps. Et mon collègue Alberto Cantera, qui d'ailleurs est parmi nous aujourd'hui, a proposé aussi, plus récemment encore, ou proposera, parce que je crois que l'article est inédit, le mot d'articulation, parce que chacun de ces ratu articule un ensemble plus vaste, qui est d'ailleurs le urta, qui est achat, et le urtu est une maille, une articulation, dans cet ensemble plus vaste de l'harmonie universelle, et plus précisément, dans ce cas-ci, de l'harmonie du temps. Alors, je vais faire une petite digression qui n'est pas une digression, elle est importante, parce qu'il y a un phénomène aussi bien connu lorsque l'on étudie le système religieux de l'Avesta et qui a suscité beaucoup de discussions, qui est aussi apparemment très perturbant, c'est ce que j'ai appelé la case vide de la terminologie religieuse. En réalité, si vous me demandez comment dit-on Dieu en avestique, je ne peux pas vous répondre. Je ne peux pas vous répondre parce, simplement parce qu'il n'y a pas de mot véritablement spécifique pour dire Dieu. Un nom très général pour dire Dieu que nous connaissons par le latin, le sanskrit, le latin Deus, sanskrit Deva, n'est plus d'usage, puisque les Daiva avestiques sont les démons. Ce mot a subi un accident. Il s'est retourné du point de vue du sens, d'une manière ou d'une autre, quelle que ce soit l'explication qu'on donne à cela. Alors, dans la plupart des dialectes iraniens anciens, moyens, modernes, pas tous, mais en vieux perse, par exemple, ou en sogdien, le mot le plus général pour dire Dieu, c'est Baga. Je donne la forme vieux perse, hein, qui est la plus claire. Baga. Les Baga, ce sont les dieux. Oui, mais ce n'est pas l'ensemble des dialectes, d'abord. Ce n'est pas un mot pan-iranien, certainement pas. Et d'autre part, le mot, il n'est pas inexistant, mais il est exceptionnel en avestique. Seulement, il est là. Vous savez, c'est la situation des histoires de fantômes. N'y en aurait-il qu'une de vraie qu'il faudrait conclure à l'existence des fantômes ? Eh bien, oui, le mot baga est deux fois là, et nous devons donc conclure qu'il était d'usage en avestique. Seulement, il reste largement inemployé, ce qui demande bien sûr une explication. Dans les yachts, la plupart des dieux qui sont invoqués portent le nom de Yazata, ceux à qui il faut sacrifier, les Yazata. La plupart des dieux, sauf les déesses. Yazata est un mot étrangement non employé au féminin. Là aussi, je n'ai pas d'explication précise. Mais c'est une chose toujours un peu gênante quand on voit certains spécialistes d'histoire des religions dire d'Anahita qu'elle est une Yazata. C'est absurde. Aucune déesse n'est dite Yazata. Le mot Ratu, dont nous venons de parler. Alors, il y a la fameuse question, je vous le rappelle, je ne vais pas faire l'exposé complet parce que vous connaissez certainement maintenant la situation de ce qu'on appelle les Ameshaspenta, les immortels bienfaisants, si vous voulez bien peut-être donner. C'est la liste du calendrier que nous utilisons plus tard, mais elle a ceci de commode que si vous regardez le premier groupe, la colonne qui se trouve exactement à votre gauche, vous avez la liste, selon leur nom avestique, des dieux considérés comme les Ameshaspenta. Il y a Uramazda et subordonné à lui un groupe de 6 entités, Vohumana, la bonne pensée, Ashavahishta, le très bon achat, la très bonne harmonie, le très bon agencement, Kshatravahirya, le pouvoir qu'il faut choisir, Spenta Armaiti, la pensée adéquate, qui est bienfaisante, Urvatat, la santé, et Amurtat, l'immortalité. Voilà un groupe particulier qui porte dans les yachts le titre d'Ameshaspenta. Nous avons maintenant, depuis 1982, et un livre de Johannan Arten, une vision un peu plus compliquée des choses. Alors que l'on croyait que ce titre d'Ameshaspenta était, bon, création très ancienne qui caractérisait même la doctrine yatique, Johannan Arten a montré que ce groupe de 6 ou 7, si l'on compte à Uramazda, divinités qui sont définies comme Ameshaspenta, était en réalité une création de l'avestique récent. Donc une création relativement tardive. Relativement tardive. Et ensemble, encore une fois, il y a quelques années, nous sommes allés plus loin. Nous sommes allés plus loin. Nous avons vu que même dans l'Avesta récent, la notion était extrêmement instable. Alors, le titre d'Ameshaspenta n'est pas attesté dans les Gathas, qui probablement désignent ces divinités sous le nom d'Ahura, comme dans Ahura Mazda, les Ahura. Le titre d'Ameshaspenta est attesté comme désignation générale des dieux, générale des dieux, dans le Yasnahaptankaiti, donc dans l'autre partie de l'Avesta ancien. Et, semble-t-il, il désigne aussi la totalité des dieux dans certains passages du Yasna. C'est donc une notion parfaitement instable et dont nous ne voyons pas très bien comment fixer définitivement les contours. Alors, j'évoque ce problème parce que je vais vous faire une petite proposition. Je crois que nous avons eu trop tendance, jusqu'ici, dans l'histoire de notre discipline, d'expliquer les difficultés ou ces apparentes contradictions de ce type-ci en recourant à des hypothèses qui font intervenir le conflit à l'intérieur de la religion, ou si vous préférez, au mot conflit, le mot crise. Nous devrions nous méfier de cela. Je vous inviterai peut-être à considérer ici que nous avons un vocabulaire technique. Il me semble aujourd'hui que ce n'est pas un hasard si c'est dans les passages en Yazamaïdé que les dieux sont préférentiellement appelés Yazata. C'est un reflet du Yazamaïdé, un reflet du Yasna. Ce sont les dieux à qui on rend le sacrifice. Et puisqu'on rend le sacrifice, bon, on les définit par cette qualité, d'être ceux qui méritent le sacrifice. Alors, lorsqu'on les évoque en rapport avec les divisions du temps, on va les appeler urtu, articulation, parce qu'ils articulent le temps, parce qu'ils sont les éléments qui réalisent l'assemblage du temps. Baga, il existe. Il existe, il est attesté. Ce n'était pas un mot inconnu de la tradition avestique, mais c'est un mot insuffisamment technique. Il ne correspond pas, justement, à ces séries rhétorico-rituelles dont nous devons tenir compte dans la littérature que nous possédons. Un autre fait assez curieux, c'est que certains passages du Yasna insistent sur le fait que tous les dieux sont des Ameshaspenta. Et c'est une tradition qui va perdurer, parce que même dans la littérature moyen-perse, dans le Bundahishn encore, dès qu'il est question des patrons des jours du mois, c'est le mot d'Amaraspant ou d'Ameshaspenta qui est utilisé pour toutes les divinités qui donnent leur nom à un jour du mois. Donc ça montre que la sélection des Ameshaspenta n'est pas entièrement close avec les noms qui figurent dans le premier groupe de la liste. Mais à ce sujet-là, nous ferons encore d'autres remarques. Je voulais le faire ici, surtout pour vous faire relativiser l'importance de la terminologie qui désigne les personnes divines. Alors, voilà, quelles sont maintenant les articulations du temps ? Bien, la liste en a dressé par le Yasna 1.17 et les passages qui lui sont parlés, pourriez peut-être, si vous voulez bien, nous allons dresser il y a deux divisions du temps qui dérivent du nom du jour. Les ratu peuvent être des ratu ayara ou des ratu asnia. Ce sont les mots qui désignent ces ensembles, ces parties, ces divisions du temps sont généralement des neutres, des mots neutres en RN, comme les a étudiés Benveniste en 1936 dans sa thèse. Le premier, c'est le mot ayar ou ayan, mais tous seront faits sur ce modèle, ce sont des mots neutres. Le mot Ayar, c'est le jour comme durée, le jour de 24 heures, hein, qui recouvre donc le jour et la nuit. Or, Asnia, le mot est ici Azan, il y a un équivalent en sanskrit, Ahar. Mais ce mot-là désigne le jour par opposition à la nuit, le jour par opposition à la nuit, en général. Alors, un dérivé du nom de la lune, Maria. Maria. Moi ou phase lunaire. Semble-t-il des phases lunaires. les phases lunaires. En tout cas, aucun dieu, d'ailleurs, lorsque ces phases lunaires sont évoquées, n'est mis en rapport avec cela, comme si cette transformation-là, cette division du temps, ne mettait en cause que la Lune. Il y a bien sûr le temps de la pleine Lune, de la demi-Lune et du croissant le plus réduit. Alors, deux dérivés d'un nom clané. Yahiria, nom Iyar, ce sont les époques de l'année. Et Sarda peut-être aussi, mais nous devrons le discuter, si du moins le mot Sarda peut être mis en rapport avec le sanskrit Sharad, qui est le nom de la saison de l'automne, c'est l'automne. Mais vous savez que parfois, l'on calcule les années en leur donnant le nom d'une saison. Or, on pourrait calculer par automne, peut-être. Mais c'est un mot qui fait problème. Alors, est-ce que nous connaissons les ratous de ces qui sont définis de cette manière-là? Est-ce que nous connaissons les dieux qui seraient les articulations Ayara, les articulations Asnia, Maria? Maria, non, nous l'avons écarté tout de suite. Ou Yahiria, ben oui, mais de manière incomplète. Je laisserai provisoirement, avant de faire des hypothèses, un point d'interrogation ponctuer les ratous Ayara. Les ratous, donc en principe des divisions de la journée de 24 heures, parce que la liste n'en est pas dressée. Par contre, dans le Yasna 1, toujours, et ses passages parallèles, nous avons une énumération des ratous Asnia. Yasna 1, 3 à 7. Donc, les divinités, non pas qui donnent leur nom, mais qui patronnent les... Oui, qui patronnent quoi? Eh bien, curieusement, le jour en tant que cycle de 24 heures, car il y a des... Alors que le mot désigne le jour par rapport à la nuit, nous avons aussi des divinités des différentes parties de la nuit, ce qui paraît contradictoire avec la formation du nom, puisque on s'attendrait plutôt de cela et Kayara. Je ne vois qu'une explication étrange, c'est que le mot Asnia est en réalité une désignation elliptique, ce qui arrive lorsqu'il s'agit de paires complémentaires et qu'il faudrait comprendre Asnia, bien sûr, Asnia, mais aussi avec Kshafnia, c'est-à-dire ce qui se rapporte à la nuit, ce qui appartient à la nuit. Car effectivement, c'est toute la durée des 24 heures qui est envisagée. Bien, alors, quelles sont ces divinités? Eh bien, quelles sont ces parties du jour et quelles sont les divinités qui y président? La période Havani, qui va de l'aurore du lever du soleil à midi. Lever du soleil à midi, Mitra et un acolyte. Il y a toujours ce petit système qu'on va observer chaque fois entre une divinité principale et une divinité qui lui est rapportée, un peu comme comparse, qui n'a pas au contraire de Mitra qui a une histoire que l'on peut raconter. Cette divinité-là, elle l'accompagne essentiellement. Mitra et son comparse, Raman. C'est une allégorie abstraite, Raman. Ça signifie le calme, le fait d'être au repos. Et c'est ce que l'on souhaite pour ses pâtures. C'est pas car vous savez que le calme des vaches est évidemment requis, car ce qui agite les vaches est très mauvais pour le lait. Bon, donc Mitra et Raman, pour la période, la matinée. Rapitwina, par sa formation même, il semblerait que c'est un temps zéro. C'est le moment juste de midi. Le moment juste de midi. Et ces patrons ne sont pas des divinités, en réalité. Ce sont deux choses, d'ailleurs, un peu différentes, diffèrent l'une de l'autre. Asha, vous avez vu son nom dans la série des Amushas Penta, Asha, c'est-à-dire l'ordre général du monde, et le feu. Or, le feu n'est pas une divinité à proprement parler, c'est un agent du culte, c'est le feu rituel. En tout cas, en tant qu'Amushas Penta, Asha ne peut pas avoir de texte qui le représente, et le feu non plus, d'une certaine façon. On ne peut pas dresser un yacht au feu. On ne sacrifie pas au feu, mais on sacrifie en présence du feu ou au moyen du feu. Uzayirida, de midi au coucher du soleil. De midi au coucher du soleil, le dieu Apam Napat et l'eau. Oui, l'eau ou les eaux sont des divinités, il faudra en tenir compte. Apam Napat, il est lié d'une manière certaine aux eaux. Nous allons, il va nous retenir notre attention, celui-là, dans les cours qui vont venir. Ça signe, cette appellation d'Apam Napat a un sens très précis, Apam au génitif pluriel, et puis son nom Napat, c'est le petit-fils des eaux. Le petit-fils des eaux. Petit-fils des eaux et les eaux, ou l'eau. Alors, Aiwi Gaia, Aiwi Srutrima, ce qui doit vouloir dire quelque chose le moment où l'on chante et où l'on écoute chanter. C'est la première partie de la nuit. Du coucher du soleil à minuit. Divinité qui les patronne, les Fravashi. Souvenez-vous, il y a 2 ans, nous les avons étudiés. C'est-à-dire l'allégorie du choix sacrificiel des hommes, les Fravashi. Chaque homme ayant sa Fravashi qui représente son intention rituelle, son intention sacrificielle. Ushahina, de minuit au lever du soleil, la divinité est Srausha, Srausha, dont nous avons beaucoup parlé l'an dernier. Donc ici, ceci est une liste simplifiée, n'est-ce pas? Car les Fravashi, par exemple, ou bien Srausha, sont aussi accompagnés de comparses. Mais les Fravashi sont associés aussi pour cette période de la première partie de la nuit à un dieu plus important qui est considéré traditionnellement comme un dieu guerrier, mais qui est Vertrakna. Vertrakna est l'autre divinité qui patronne la première partie de la nuit. Tels sont donc les ratous de la journée. Alors, les phases de la lune, nous avons, c'est le Yasna 1-8 qui semble ne mettre en cause que la lune, qui est par ailleurs une divinité, comme la plupart des corps célestes. On pourrait se poser la question de savoir, mais l'Avesta n'en fait pas mention, en tout cas pas de manière articulée, pas de manière aussi précise, qui sont les patrons des différents mois. Il y a 12 mois. Le premier commençant à l'équinoxe de printemps, le 21 mars. Alors, la liste se trouve... j'ai mis le point d'interrogation parce que il n'y a pas d'exposé théorique sur cette articulation-là. Voilà les Fravashi, Asha, Urvatat, Tishtriya, Amurtat, Kshatra, Mitra, les eaux, Apo, Atar, le feu, Datush, le créateur, c'est-à-dire Ahura Mazda, Vohumana, Armaïti. Je dirais que le système, le système que représente le nom des mois est extrêmement difficile à comprendre. Il nous échappe en réalité. Il nous échappe pour la raison suivante. Il y a trop d'Ameshaspenta au sens strict. Si nous faisons abstraction du feu et des eaux, dont le statut est un peu particulier, sur lequel d'ailleurs nous reviendrons, eh bien, en réalité, il n'y a que 3 divinités des Yashts qui sont évoquées ici. C'est les Fravashi et Mitra. Et curieusement, ils se distribuent de manière symétrique. Les premières pour patronner l'équinoxe de printemps et le second pour patronner l'équinoxe d'automne. Se correspondent. Mais pourquoi les premières sont-elles liées au printemps, le second à l'automne, je ne peux pas vous le dire. La seule logique, c'est la troisième divinité, Tishtriya, dont le mois commence avec le solstice d'été. Vous voyez d'ailleurs qu'il est symétriquement ordonné avec Ahura Mazda, dont le mois commence au solstice d'hiver. Mais il y a une logique, très simple. C'est vers le solstice d'été que l'étoile Tishtriya entame le mécanisme de production de la pluie, comme je vous l'avais expliqué, je crois, il y a 2 ans. L'action de Tishtria commence effectivement, selon son yajt, avec le solstice, avec le solstice d'été. Donc ici, le système nous échappe un peu. Je vous rappelle que l'Avesta ne fait pas la théorie de ces jours du mois. Nous l'avons, on le tire de, d'autres listes, n'est-ce pas? Alors, voici donc ce que l'on peut en dire. Alors, là, les divinités, Yairia, les articulations de l'année, en réalité, il n'y a pas de divinité qui soit mise en relation avec les diverses époques de l'année. Il y a dans l'année 6 moments particuliers que l'on traduit de manière conventionnelle par festival. Ce sont des moments de fête particulières, et dont le nom exprime d'ailleurs un événement agricole, un événement de la vie agricole. Ça paraît extrêmement profane. Hein, la religion ne semble pas y tenir un grand rôle, mais nécessairement, ces fêtes agricoles doivent correspondre aussi à certains rites, mais aucune divinité n'est nommément citée en relation avec ces moments-là. Il y a le moment Maidyo Izarmaya, c'est la mi-printemps, le 5 mai. La mi-printemps qui, semble-t-il, est caractérisée par une production de lait, payankra, c'est ce que cela veut dire. Maidyo Shema, c'est le milieu de la saison chaude. Le mi-été, littéralement, mais il faut comprendre été au sens large. La saison chaude, qui va de mars à octobre, le 4 juillet. Et il semble que ce soit le moment où l'on fait la fenaison, Vastodatainya. On tond les pâtures. On tond les pâtures, littéralement. La fenaison. Le 16 septembre, Paitish Yahya, je ne sais pas très bien comment le comprendre. C'est une enquête que je n'ai pas faite. Mais il semble qu'on pourrait traduire si Yahya représente le grain, Paitish Yahya, c'est le retour du grain. Je comprendrais le regain, comme nous disons en français, hein, le regain, mais je ne sais pas s'il n'y a pas peut-être deux moissons dans certains endroits d'Iran où ces textes sont deux récoltes de blé par an, comme cela peut arriver, une question climatique, bien sûr. Peut-être est de cela qu'il est question, c'est le 16 septembre. Aya Trima, Frauweij Trima, c'est le retour du bétail dans ses abris d'hiver. Le retour, et c'est l'époque, nous dit-on, où on lâche les boucs parmi les brebis. On lâche les boucs parmi les brebis, c'est le 16 octobre. Mandiairia, c'est la moitié de l'année, littéralement, mais il faut comprendre la moitié de la saison froide, d'octobre à mars. C'est la période où il gèle, Sarda, le 4 janvier. Alors, un mot que nous ne comprenons pas du tout, mais alors pas du tout, ce serait vraiment vain d'émettre une hypothèse. C'est là, au fond, la fête de l'équinoxe de printemps qui est en rapport avec les fravachis, puisque le Yajt 13 nous dit que c'est l'époque où les fravachis viennent auprès de leurs adorateurs. C'est le Hamas Pas Maïdaya, et qui a comme caractéristique l'Areto Keroitna. Je ne fais aucune hypothèse sur ces mots, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Alors, c'est donc les listes. Alors, il y a maintenant deux questions qui se posent à nous, et nous allons arrêter avec elles parce que nous allons tenter de les envisager pour avoir une vision globale des divisions du temps et de leur rapport avec le Panthéon. Ce sont des divinités particulières de la journée, les Ratu Ayara, dont nous ignorons tout. Nous ignorons ce qu'est la division et nous ignorons ce que sont les divinités correspondantes. Et aussi les Ratu Sarda, dont nous ignorons le sens exact. Est-ce qu'il s'agit d'une division de l'année parallèle à celle que nous venons de voir, ou au contraire, s'agit-il de toute autre chose? Et là aussi, il nous faudra mener la réflexion un peu plus loin. Vous allez voir que tout de suite, si ça va conduire à notre liste des yachts, Bon, nous sommes hors du yasna cette fois-ci, mais les yashts, eux aussi, sont en rapport avec la répartition des divinités par rapport au moment du temps, puisqu'il y a une correspondance évidente entre l'ordre des yashts, leur nature, et le nom qui est donné au genre du, le nom qui est donné au jour du mois. C'est ce qui va nous retenir au début de la leçon prochaine. Je vous remercie de votre attention et à bientôt. Merci.